Des sous et des hommes. Une émission de Pascal Fourier. Et notre invité, comme la semaine dernière, sera Jacques Sapir, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales et auteur de La fin de l'eurolibéralisme. Alors c'est justement dans cet ouvrage qu'un petit sous-chapitre avait attiré mon attention. Il était intitulé « Souveraineté, souverainisme et nationalisme ». Alors j'avais Jacques Sapir sous la main, j'en ai profité, je suis restée pour une deuxième émission avec lui. Et vous verrez, je lui ai posé une petite première question un peu iconoclaste. Dans l'émission précédente, vous aviez utilisé d'une part le mot « souveraineté » et d'autre part à plusieurs reprises le mot de « nation ». Vous êtes un très 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 vilain d'utiliser ces mots-là?
Oui, très certainement. Et non seulement je les utilise, mais je les revendique. Alors, tout d'abord en ce qui concerne la souveraineté, mais tout simplement parce qu'il n'y a pas de démocratie sans souveraineté. C'est vrai aussi bien pour un pays que pour une organisation. Si les gens qui sont extérieurs peuvent à un moment donné voter à votre place, vous n'avez plus de démocratie. Et d'ailleurs, je ne connais pas une organisation existant aujourd'hui en France qui accepterait que des non-membres, je ne dis même pas des non-militants, mais tout simplement des non-membres, viennent voter pour des décisions internes. Donc nous savons très bien que la démocratie implique la distinction de ce qui est dedans et de ce qui est dehors. Si vous ne faites pas cette distinction, il... Donc la question de la souveraineté est au cœur même de la démocratie. Il n'y a pas de démocratie sans souveraineté, il n'y a pas de démocratie sans la capacité d'agir. Après, il y a un autre problème qui est celui de la nation. Et là, ma référence, je ne l'ai jamais cachée, est une référence pré-marxiste, mais dont Marx est beaucoup inspiré, c'est celle de François Guizot, grand historien français, aussi grand homme politique, bourgeois, on sait que c'était un ministre de Louis-Philippe. Guizot avait trouvé la formule « L'histoire, c'est l'histoire de la lutte des classes ». Et il avait construit cette formule autour de son analyse de la construction des institutions qui progressivement amènent l'état de droit, puis la démocratie. Et il montrait, d'ailleurs, dans une analyse extrêmement fine, que c'était les conflits sociaux qui progressivement, depuis le haut Moyen-Âge jusqu'à la période moderne, avaient permis l'émergence de ces institutions. Et je crois que c'est quelque chose d'extrêmement fort que l'on vérifie encore tous les jours. Je crois que nos institutions politiques, mais aussi sociales, à terme écologiques, sont le produit des conflits qui ont existé dans nos sociétés, dans une société donnée. Et c'est pour cela que l'on peut parler, d'ailleurs, de culture politique nationale. Ces cultures politiques traduisent les victoires des uns, les échecs des autres, les rapports de force, comment ils ont évolué, comment ces rapports de force aussi ont été intériorisés dans les pays. La relation, par exemple, de la classe ouvrière au reste de la société en Grande-Bretagne n'est pas la relation que l'on a connue en France. Il y a des choses extrêmement différentes qui d'ailleurs se vérifient dans le parler, dans la culture générale. Donc on ne peut pas, je dirais, barrer d'un trait de plume l'existence de cette mémoire nationale qui est une mémoire essentiellement sociale. Les nations ne sont pas des faits, je dirais, de l'ordre du naturel ou du surnaturel, ils sont de l'ordre de la construction sociale.
Ce que je trouve un petit peu étonnant dans ce que vous dites, c'est que à ce moment-là, c'est totalement antinomique avec l'idée d'Europe. Cette idée que la nation a de l'importance, que ce sont des choses qui sont intériorisées, que c'est ça, à ce moment-là, quelle est la place de l'Europe là-dedans? Parce que c'est un petit peu ça aussi l'opposition qu'on peut trouver chez certaines personnes, cette façon de récuser la nation. Est-ce que l'Europe finalement serait quelque chose vu comme quelque chose de plus positif?
Le problème, c'est que dans le mot Europe, on met des contenus extrêmement différents. Il y a très clairement des gens qui conçoivent l'Europe uniquement comme un cadre légal et qui, d'une certaine manière, ne sont pas prêts à accepter une conception exigeante de la démocratie. C'est-à-dire que pour eux, la démocratie, ça se limite à l'état de droit. Et donc, l'Europe peut très bien fonctionner comme une instance qui produit de la réglementation, les directives européennes. Et à partir de là, on n'a plus qu'à les respecter. Du moment que l'état de droit est maintenu, ben la démocratie est maintenue. Malheureusement, l'état de droit peut être parfaitement antidémocratique, si vous voulez. Et la démocratie implique que l'on puisse, le cas échéant, changer les lois et les renverser. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de démocratie s'il n'y a pas la légitimité, et pas seulement la légalité, et cette légitimité renvoie au fait que l'on partage un certain nombre de valeurs, un certain nombre de notions politiques qui font que l'on considère comme juste ou injuste un certain nombre de décisions. Et ça, c'est un point tout à fait essentiel. Et puis, il y a une autre vision de l'Europe, celle d'une Europe fédérale, et qui, en fait, vise quoi ? À construire une grande nation. Et ça, quand on dit que cette vision de l'Europe est antinomique à la nation, c'est tout le contraire. On cherche au contraire à construire une nation de taille supérieure. Alors, je n'ai rien contre ce projet en théorie, sauf que je fais remarquer la chose suivante, cela implique des convergences de culture politique très fortes. Car si vous regardez l'histoire des États fédéraux, vous verrez que cette histoire a toujours comme point fondateur une guerre civile. Aux États-Unis, au Brésil à la fin du 19e siècle, en Suisse. On oublie qu'il y a une guerre civile en Suisse au 19e siècle. Alors, je dis à ce moment-là aux partisans de cette vision de l'Europe fédérale, compte tenu des divergences de culture politique, êtes-vous prêt à prendre le risque d'une guerre civile aujourd'hui en Europe? Et si vous n'êtes pas prêt à prendre ce risque, est-ce que il ne vaut pas mieux avoir un projet plus modeste, qui est celui de regroupement de pays en fonction de leurs affinités? Car si je crois effectivement qu'il n'y a pas de convergence de culture politique au niveau de l'Europe à 25, il y a des convergences entre certains pays. Et on l'a vu par exemple sur un point très intéressant, c'est la conception de la citoyenneté et de la nationalité en France et en Allemagne. Il y a 25 ans, on disait la conception de la nation est complètement différente en France et en Allemagne. Les Allemands tiennent au droit du sang, les Français tiennent au droit du sol. Bon, on voit que c'est moins simple que ça en France. Et puis surtout, la culture allemande et la culture légale allemande a énormément progressé dans le sens plutôt du droit du sol et contre le droit du sang. Et donc, il y a bien, si vous voulez, là, pour le coup, des complémentarités, ou en tout cas des convergences de culture politique. On peut le dire aussi dans le cas de l'Italie. Donc, on voit bien qu'entre certains groupes de pays, oui, bien sûr, il y a des convergences politiques. Et là, effectivement, on pourra probablement penser à des formes fédérales à terme. Mais je mets vraiment en garde les gens qui se situent dans ce que j'appellerais l'utopie européenne, je les mets en garde de deux choses. D'une part, faire très attention sur l'état des divergences qui existent dans les cultures politiques. Et là, si on prend l'U25, ces divergences sont très importantes. D'autre part, de faire très attention sur la question des rythmes. Historiquement, chaque fois que l'on a voulu forcer les rythmes dans un pays fédéral, on a abouti à une catastrophe. Et je crois que l'histoire du XXe siècle en Europe a été suffisamment tragique pour qu'on ne prenne pas le risque de recommencer ça au XXIe siècle.
Des sous et des hommes sur Allegre FM, et on est toujours en compagnie de Jacques Sapir. Et la suite, comme ce qui précède, va sérieusement dégager les neurones.
Il y en a certains qui pourraient vous dire, quand même, défendre à nouveau la nation, c'est un petit peu comme si les Gaulois d'antan, on se retrouve un petit peu au sein de l'Europe, comme on pouvait se retrouver sur le territoire de l'actuelle France. C'est-à-dire qu'il y avait plusieurs peuples avec probablement des conceptions politiques différentes. les petits peuples gaulois, et à terme, ça leur a porté tort de pas aller justement vers un au-delà de leur nation, justement.
Le problème, si on regarde ce que nous savons par l'histoire et la préhistoire des Gaulois, c'est qu'ils avaient la même culture politique. Simplement, il y avait une chose qui leur manquait complètement, c'était l'idée de nation. L'idée de nation n'existait pas. L'idée de nation est une idée récente. Faut pas la confondre avec l'idée de tribu. Et moi, au contraire, ce que je vois grandir, à ma grande inquiétude, c'est un retour au tribalisme aujourd'hui, y compris dans le monde moderne. La notion de nation s'est constituée vers le 10e et le 13e siècle, dans une double opposition. Opposition aux micro-pouvoirs locaux, c'est-à-dire aux petits féodaux, qui exerçaient un arbitraire total et dévastateur sur les populations. Et donc, le roi, en tant que représentant de la nation, d'une certaine manière, mettait un frein à ses pouvoirs locaux. Et puis, opposition à un pouvoir non territorialisé, d'ordre religieux. La nation en France, et pas qu'en France d'ailleurs, se construit dans cette double opposition contre, d'un côté, les petits féodaux, et de l'autre côté, le pape, qui prétend, au nom d'une idéologie religieuse, faire fi des réalités sociales et politiques de son temps. Et c'est comme cela que se construit l'idée de nation, et c'est parce qu'elle se construit dans cette double opposition contre un localisme sanguinaire et un espèce d'internationalisme avant la lettre, mais tout aussi sanguinaire, parce qu'il porte en lui la logique de l'affrontement de religion à religion, que le concept de nation se révèle si favorable à terme au développement des idées démocratiques. Et on voit au niveau mondial que les régions du monde où la notion de nation a du mal à se développer, ou n'a pas pu se développer pour des raisons historiques, c'est aussi les régions où la démocratie a du mal de se développer. Qu'on le veuille ou non, la démocratie et la notion de nation ont partie liée.
Certains pourraient vous dire, quand même, il faut savoir, je pense à certaines personnes dans les milieux altermondialistes, qui pensent que finalement les choses au niveau économique et politique doivent se réguler au niveau mondial. Qu'il faut savoir aller justement au-delà de la nation pour aller dans une espèce de grand tout où on serait tous les habitants d'un même monde.
La véritable question, c'est est-ce que nous sommes aujourd'hui dans un même monde du point de vue des cultures politiques ? Qu'il y ait des problèmes qui dépassent, je dirais, les frontières des nations ? C'est une évidence, et ce n'est pas neuf. Quand on nous dit que c'est neuf, c'est faux. C'est très ancien, en réalité. C'est d'ailleurs pour cela qu'il existe des relations bilatérales de nation à nation et qu'il existe des alliances. Le véritable problème, c'est si on doit prendre des mesures, il faut savoir qui est responsable de quoi et devant qui. Donc, qui est le gouvernement ? Quel est le corps politique ? Je pense que des mesures qui seraient prises par des groupes de techniciens irresponsables, sans définition d'un corps politique, seraient à terme vécues comme une tyrannie insupportable, et ces mesures, même si elles étaient bonnes, finiraient toujours par être rejetées. Et on voit bien aujourd'hui que l'un des grands arguments de certains secteurs de la société française, qui refusent par exemple des réglementations européennes, quand parfois ces réglementations européennes sont positives, c'est que justement ces réglementations sont issues d'un espace politique dans lequel ils ne se reconnaissent pas. Et c'est pour cela que l'on ne peut pas distinguer la question de la légalité de la question de la légitimité. C'est aussi la raison pour laquelle, par exemple, je me refuse à considérer l'état de droit comme un élément constitutif central de la démocratie. C'est nécessaire. Mais c'est un élément qui vient derrière la question de la légitimité. Et donc, la véritable question, c'est peut-on aujourd'hui construire des espaces politiques légitimants transcendant les nations ? pour que ce soit possible, il faudrait que l'on ait des cultures politiques qui arrivent à s'imbriquer relativement aisément. Alors, c'est possible entre certains pays, c'est très clair. C'est pas possible encore aujourd'hui à un niveau extrêmement général. Et donc, il faut bien comprendre que nous resterons, pour une période assez longue, dans la logique des relations internationales. Et toute tentative pour essayer, si vous voulez, de s'extraire de cette logique des relations internationales renvoie à terme au mythe religieux, si vous voulez, d'une grande croyance qui doit s'imposer à tous. Et moi, c'est quelque chose qui me fait peur, parce que dès qu'on rentre dans le domaine du religieux, on rentre dans le domaine non pas de la conviction, mais de la contrainte. On ne cherche pas à convaincre quelqu'un, on cherche à le convertir à terme par le fer et par le sang. Et là, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux. Et une partie du mouvement altermondialiste, sans s'en rendre compte, est en train de partir dans les mêmes voies, par exemple, que le fanatisme religieux, qui aujourd'hui prend plutôt la forme du fanatisme musulman, qui a été, à un moment donné, le fanatisme religieux chrétien, et ils ne voient pas que s'ils sont dans la logique de la conversion, ils sont sortis de l'espace politique. Si on est dans un espace politique, on est dans la logique de la conviction. Si on est dans la logique de la conviction, on doit s'inscrire dans des cultures politiques identifiables. Si on n'est pas dans des cultures politiques identifiables, votre discours n'a pas d'effet de conviction sur l'autre. Tout simplement parce que vous n'utilisez pas les mêmes images, vous n'utilisez pas les mêmes concepts, même si vos termes sont les mêmes, en réalité vous parlez d'autre chose. Le mot de démocratie est utilisé dans beaucoup de cultures politiques, il n'a tout simplement pas le même sens. Nous n'avons pas la même compréhension de la démocratie, par exemple, qu'en Amérique du Nord, qu'aux États-Unis. Pourquoi ? Parce que notre culture politique est en fait très différente et que la dimension religieuse dans la culture politique américaine est beaucoup plus importante et assez différente de dans la nôtre. Les notions de république, les notions de citoyenneté ne sont absolument pas les mêmes. Là encore, si vous prenez le cas des États-Unis, la première citoyenneté, c'est celle de la communauté de base, qui est toujours une communauté religieuse. C'est-à-dire pour cela que ces communautés de base prennent en charge l'enseignement primaire. Parce que c'est ce qu'il y a de plus important. Les enfants, quand ils sont petits. Quand vous êtes aux États-Unis, que vous devez y vivre pour un certain temps, la première chose qu'on vous demande, c'est à quelle église vous rattachez-vous. Ce qui est absolument impensable en France, en Allemagne, en Italie. Donc, il faut bien mesurer que même dans des pays qui par ailleurs ont des institutions démocratiques. Et je suis personnellement assez favorable, par exemple, aux institutions de contrôle parlementaire qui existent aux États-Unis et qui me semblent supérieures, dans certains cas, à celles que nous avons en France. Mais sur le fond, il y a, derrière l'usage du même mot, des divergences très importantes. Donc vous ne pouvez pas convaincre quelqu'un si vous ne vous situez pas, d'une certaine manière, dans un cadre politique qui soit identifiable. Et c'est bien pour cela que toutes les tentatives de sauter au-dessus de la nation, soit sont voués à l'échec, soit sont voués à se transformer en une idéologie, je dirais, religieuse, en idéologie de la croisade religieuse, alors qui ne sera pas la croisade au nom du Christ ou au nom de Mahomet, qui sera peut-être une croisade au nom, je ne sais pas moi, de l'efficacité économique, du libre-échange ou de l'efficacité écologique, mais qui, comme toutes les croisades, aboutira en massacre.
Les souhaits des hommes, toujours en compagnie de Jacques Sapir, auteur de La fin de l'euro-libéralisme. J'avais encore un petit temps avec lui, 4 minutes, et voyez les questions.
Peut-être une question subsidiaire. Certains, là encore, vous diraient nation, nationalisme. Le Pen.
Mais, la nation n'implique, n'a jamais impliqué le nationalisme au sens où, cela voudrait dire, je suis supérieur aux autres. Il n'y a rien qui aille de la notion de nation, de la constatation des processus historiques qui ont abouti à la construction sociale des nations, à l'idée qu'il y aurait une nation supérieure aux autres. Il y a, par contre, un point sur lequel il faut faire extrêmement attention, Et je crois que malheureusement, c'est l'oubli de ce point qui a ouvert un espace politique à des forces d'extrême droite en France et en général en Europe. On ne peut pas imposer des décisions à des citoyens sans que ces citoyens aient les moyens, d'une certaine manière, de les contrôler. Et de fait, les politiques qui ont été mises en place depuis une vingtaine d'années et qui font que les décisions économiques s'imposent aujourd'hui sans contrôle et défont, détricotent jour après jour les institutions sociales qui ont été construites dans la période précédente, ceci est vécu comme l'équivalent symbolique d'une invasion par les citoyens. Et comme c'est un équivalent symbolique, il leur faut évidemment trouver quelque chose de moins symbolique et de plus réel, et on prend le premier basané du coin comme victime. Mais il faut comprendre que cette espèce de montée de l'extrême droite que l'on connaît, et avec son côté xénophobe, n'est d'une certaine manière que la transcription d'un malaise qui lui est justifié, qui est le sentiment qu'ont les gens d'être dépossédés de leur maîtrise, de la maîtrise sur leur propre destin. Le problème, c'est qu'évidemment, ils se trompent de cible. Lénine avait de la même manière violemment attaqué les antisémites russes qui utilisaient le langage classique, oui, ce sont les juifs qui ont l'argent, donc le capitalisme est juif, en leur disant, à ce compte-là, votre antisémitisme n'est que le socialisme des imbéciles. Et je dois dire que le discours xénophobe, c'est le discours nationaliste des imbéciles. Mais ce qui lui donne aujourd'hui sa crédibilité dans l'opinion, c'est le fait que les gens ont le sentiment réel et justifié d'être dépossédés de la maîtrise de leur propre destin. Et c'est pour cela qu'il faut reconstruire les instruments de cette maîtrise, si on veut réellement faire barrage au nationalisme et à la xénophobie.
Et oui, donc c'était Des sous et des hommes en compagnie de Jacques Sapir. Je vous rappelle le titre de son livre, c'est La fin de l'euro-libéralisme. Et je ne peux que recommander en particulier les derniers chapitres qui reprennent tout ce qui a été dit pendant ces deux émissions. Vous pouvez aussi réécouter l'ensemble des deux émissions. Vraiment, je vous le conseille vivement, puisque ce qu'a dit Jacques Sapir était vraiment dense et déconcertant souvent, sur www.desousetdeshommes avec un tiret entre chaque mot. .org. Autrement, je vous rappelle que vous pouvez me envoyer un message pour me demander les programmes à venir. Donc c'est pascal.fourier avec un seul r @free.fr. Et la semaine prochaine, on va enfin réécouter l'émission que j'avais faite avec Maurice Krigel-Valrimont. Maurice Krigel-Valrimont, c'est un grand résistant. Il avait signé à l'époque un texte qu'il avait donc co-signé avec un certain nombre d'autres grands résistants, appelant à commémorer le 60e anniversaire du programme national de la résistance. Je l'avais rencontré à cette occasion. Il m'avait tenu des propos, je les ai encore réécoutés récemment, absolument sublimes, plein d'espérance. Et Maurice Krigel-Valrimont est mort cet été. Que cette rediffusion soit considérée comme une sorte d'hommage. À bientôt.